C'est un livre de voyage, un livre de soleil, d'été, autant qu'une critique littéraire, un essai philosophique. C'est un livre sur un livre sur deux monuments littéraires plutôt. Un été avec Homer de Sylvain Tesson. Bonjour Sylvain Tesson.
Bonjour.
On est ravis de vous recevoir dans la matinale, surtout juste avant de partir en vacances pour certains, car votre livre, la transcription des émissions de l'été dernier sur Inter, est un indispensable cet été encore. D'ailleurs, c'est le numéro un des ventes de livres. On en est à 100 000 exemples. Exemplaire écoulé, je crois, numéro 1 depuis 10 semaines. D'abord, bravo. Et comment vous expliquez un tel succès ?
Il faut faire attention à un tel succès, parce que Homère nous dit dans l'Iliade et dans l'Odyssée que tout succès, quand il est apprécié de manière trop vantarde ou trop orgueilleuse, finit par vous retomber dessus. Ça s'appelle dans la pensée antique l'oubris, la démesure. Oui. C'est un péché. Donc, je suis très heureux de cette belle nouvelle, mais je la prends avec beaucoup de distance et avec une modestie que j'essaye de rendre le plus grecque possible. Alors ensuite, comment est-ce que je l'explique ? D'abord, je explique pas, parce qu'il y a une alchimie du livre que rien n'explique, c'est pas une science exacte. En revanche, on peut peut-être se dire quand même que dans le désarroi relatif qui s'est emparé de nos sociétés européennes qui ne savent pas très bien ni où elles vont, ni d'où elles viennent, ni ce qui se passe dans les grandes mutations du monde, Homer est comme un phare. Il donne quelques grands axes, quelques grandes directions qui peut-être peuvent nous aider.
On va y revenir, mais quand même, sur l'Iliade et l'Odyssée, ce ne sont pas des œuvres qui sont très accessibles, très lues peut-être aujourd'hui. C'est énorme, c'est 15 000 vers pour l'Iliade, 12 000 pour l'Odyssée. On a des souvenirs au collège, c'est des lectures forcées. Vous, vous dites qu'il y a un vrai plaisir aujourd'hui à lire Homère.
Oui, je pense qu'il faut tuer le petit collégien qui se barbait en nous. Je veux dire, il faut le tuer
on
en nous,
su,
bien entendu.
Oui.
Évidemment, non, mais il faut évidemment sortir de cette idée qu'on a eue de l'écrasement un peu ennuyeux de ces textes qui nous paraissaient très solennels. Si on fait l'effort, pendant quelques heures, de se replonger dans ces textes, on va très très vite avoir la beauté. D'abord la beauté absolue de la poésie d'Homère. Ça c'est la première chose. Et puis ensuite toutes les informations que nous donne Homère sur ces époques qui certes sont très lointaines, mais ça c'est ça le grand génie, le grand miracle d'Homère, c'est que aussi loin que se passent les histoires de la guerre de Troie et le retour d'Ulysse vers Ithaque, et aussi distante dans l'histoire soit ses aventures, ce qu'elles disent de l'homme est très très près de nous, au point qu'on a l'impression parfois que ce poème a été écrit avant-hier par un camarade très familier. On a l'impression qu'Homère vient de sortir de notre actualité.
Alors justement, vous l'écrivez hein, dans Un été avec Homère, ouvrir l'Iliade et l'Odyssée revient à lire un quotidien, ce journal du monde, écrit une fois pour toutes, fournit l'aveu que rien ne change sous le soleil de Zeus. Vous écrivez ça dans les premières pages, justement, ce sont d'autres Odyssées qui se jouent aujourd'hui en Méditerranée, mais bien plus tragiques peut-être que celles d'Homère. Vous y voyez des nouveaux Ulysses, ces migrants qui tentent de rallier l'Europe aujourd'hui ?
Non, alors d'abord, je ne sais pas si elles sont plus tragiques, car qu'est-ce qui est plus tragique que l'histoire de la guerre de Troie, où deux peuples s'affrontent dans une guerre à mort, avec la destruction absolue d'une cité.
Là, on est dans l'Iliade, oui.
Je pense que le propos n'est pas d'établir des échelles de comparaison dans le malheur, dans la douleur, entre ce qu'ont pu vivre des peuples en guerre il y a 2500 ans, et ce que vivent aujourd'hui les victimes de toute la tragédie qui secoue l'Afrique, tragédie climatique, tragédie politique, tragédie économique, et tragédie de la guerre, et qui les amène à migrer, puisque vous faites référence aux migrants dans la Méditerranée. Je crois qu'Homère nous donne un certain nombre de clés de conduite dans nos existences et dans notre, ce qu'on pourrait appeler la patrie intérieure, quoi, dans notre vie, mais il ne donne pas un manuel de conduite politique qu'il suffirait d'ouvrir comme un couteau suisse pour savoir quoi faire. Alors, sur les migrants, il y a évidemment dans Homère une dimension très morale. On accueille l'étranger dans l'Iliade et dans l'Odyssée, mais il y a aussi une dimension politique. Dans l'Iliade et dans l'Odyssée, on se bat pour rétablir l'ordre, pour rétablir l'équilibre, pour rétablir l'harmonie. Ça, c'est la dimension politique de l'Iliade et de l'Odyssée.
Qui serait le nouvel Ulysse aujourd'hui, dans l'actualité ?
Mais voyez, vous parlez des migrants en posant la question de savoir s'ils étaient comparables à Ulysse. Ulysse est un homme qui revient chez lui et qui se bat pour essayer de réinstaurer un pouvoir qu'on lui a volé. Donc on ne peut pas faire la comparaison avec des exilés, des réfugiés, des hommes qui fuient le malheur pour essayer de retrouver une possibilité de vivre. Il ne peut pas y avoir une comparaison absolument plaquée. En revanche, on peut tout à fait dire que dans le courage, dans les douleurs qu'ils subissent, dans l'errance qui, à travers la Méditerranée, il y a des choses évidemment qui nous sautent aux yeux et qui sont extrêmement similaires. Aujourd'hui, le nouvel Ulysse, ce serait quelqu'un qui, à la fois, aurait une idée fixe pour vouloir absolument rentrer chez lui, et puis en même temps, n'hésiterait pas à vivre des aventures et des imprévus. En fait, ce serait un footballeur. C'est le type qui veut mettre un ballon dans une cage de foot qui est distante de plusieurs dizaines de mètres de lui. Il n'a que cette idée-là en tête. Ça s'appelle l'idée fixe. C'est le retour à Ithaque. Et en fait, sur son trajet, entre l'arrière du terrain et la cage de foot, il y a une multitude, non pas de sorcières, de magiciennes, de monstres et de cyclopes. Je suis pas en train de dire que l'équipe adverse des Croates ressemblerait à des monstres, non. Je suis en train simplement de dire qu'il y a une avalanche de péripéties, de problèmes qui s'abattent sur lui et qui l'empêchent d'arriver à ses fins, c'est-à-dire pour Ulysse, le retour chez lui, et pour nos attaquants, le but dans les cages.
Alors justement, vous nous emmenez en mer Égée dans Un été avec Homer, mais votre boussole vous a longtemps guidé vers la Russie où joue le mondial aujourd'hui. Est-ce que vous n'avez pas eu envie de remonter sur votre moto, Oural, pour suivre ce mondial et pour vivre justement l'épopée de nos bleus, l'odyssée de nos bleus?
Si, bien sûr, ça j'aurais beaucoup aimé voir la manière dont les Russes vive cette Coupe du Monde, dans la mesure où c'est très nouveau pour eux, le football. Franchement, jusqu'alors, les Russes s'intéressaient pas tellement à ce sport. Et puis, il y a eu ces événements, le parcours assez beau d'ailleurs de leur propre équipe nationale. Ça m'aurait intéressé de voir comment la clameur qui va s'élever ce soir à Moscou m'aurait intéressé.
Mais vous avez suivi quand même cette Russie? Vous avez pu vivre à distance ce qui se passait en Russie là-bas ou pas du tout?
Non, j'ai beaucoup de camarades qui sont russes et qui vivent en France et qui m'expliquaient le caractère un peu dual en fait de leur rapport au football, parce que encore une fois ils sont l'appréciation est très nouvelle. Nous on a une très vieille culture quand même en France du football, c'est quelque chose qui est constitutif de nos vies, ça a structuré nos sociétés, ça a regroupé les familles, on a l'habitude de ça. Mais en Russie c'est quelque chose de très nouveau. Vous leur parlez de hockey sur glace, alors à ce moment-là vous avez beaucoup plus de vibrations dans la nation russe qu'en parlant de football. C'est quelque chose que nous sommes dans l'adolescence du football quand nous sommes en Russie.
Sylvain Tesson, merci. On va passer aux questions des auditeurs tout de suite.
France Inter, le 6-9 de l'été, intervenez.
Et d'abord Christine avec nous, vous êtes là Christine?
Oui. Bonjour France Inter, bonjour monsieur.
Bonjour.
Voilà, donc moi j'ai été biberonnée dès la quatrième à Homer, qui m'a gâché quelques week-ends à traduire. Voilà, donc à l'époque, moi j'ai 60 et quelques années, on faisait beaucoup plus communément ce qu'on appelait des humanités, c'est-à-dire des études qui permettaient quand même d'entrer dans ce monde antique. Voilà, maintenant les études sont plus diversifiées, peut-être plus techniques, et je me demande si, c'est une bonne chose les études techniques, mais si on n'a pas perdu un peu les clés pour entrer dans la lecture d'Homère, avec la traduction, sans éventuellement avoir besoin de notes en bas de page surabondantes pour expliquer des choses qui autrefois allaient plus ou moins de soi à comprendre, parce que ça faisait partie de notre vieille mentalité, voilà.
Sylvain Tesson vous répond, Christine.
Alors, je comprends très bien ce qu'évoque Christine. Je crois qu'effectivement, on peut se laisser impressionner par le caractère très solennel du texte homérique. Mais je crois qu'il y a une manière de dépasser cette espèce de timidité que l'on a à l'égard du texte, et qui est de recourir à la simple musique d'Homère. Nous avons la chance en France d'avoir des traducteurs, je pense au poète Jacotet, je pense à Philippe Brunet, qui ont donné de l'Iliade et de l'Odyssée des traductions magnifiques. Et on peut tout à fait ouvrir ces textes, se débarrasser assez vite de l'idée que nous ne comprenons rien à toutes ces histoires qui sont si loin de nous, des clans, des peuples, des batailles, des géographies, des mythologies qui ne nous concernent plus. Et très très vite, on va se laisser engourdir par la beauté de la musique. Et notamment parce que Homère, dans son génie inventif de littérature, a inventé cette manière de parler des hommes, des femmes, des déesses et des dieux, non pas en recourant à de longues descriptions psychologiques, mais en se servant d'épithètes, d'adjectifs qui l'accolaient au nom des hommes et qui font que le moindre dieu, la moindre déesse avance dans le texte homérique avec son adjectif, avec son épithète. Et regardez, je vous en donne quelques exemples. Athéna, la déesse aux yeux de chouette, ou alors la déesse aux yeux père. Athéna, la déesse excite peuple. Ulysse aux mille ruses. Achille au destin rapide. Achille au divin visage. Ulysse, l'endurant. Ulysse aux pensées chatoyantes. Enfin, vous voyez, vous avez toujours comme ça une adjonction de toutes les caractéristiques, de toutes les vertus du héros. Et à la fin, on rentre non plus dans un livre d'histoire lointain qui nous parle de la guerre de Troie et des errances d'un aventurier à travers les îles, mais on rentre dans un poème et dans une symphonie.
Vous parlez de musique, justement, vous posez la question à un moment dans Un été avec Homère, pourquoi ne fredonne-t-on pas les vers d'Homère comme des tubes de l'été? Oui, pourquoi, Sylvain Tesson?
Ben, je trouve que on devrait revenir à cette idée que Homère a écrit son poème pour être lu à haute voix, par ce qu'on appelait dans la Grèce antique des aèdes, c'est-à-dire des poètes.
D'ailleurs, qui déclamaient.
Qui se levait, qui déclamait au banquet. En général, d'ailleurs, on accompagnait ça de longues rasades de vin. Et il y a d'ailleurs un très beau moment dans Ulysse où Ulysse consacre l'invention de la littérature. Ulysse dit qu'il n'y a pas de meilleur moment au monde que celui où des hommes sont réunis autour d'un festin, autour de la table du roi, laissent les chansons, c'est-à-dire le servant qui le sommelier quoi en quelque sorte qui va leur servir du vin dans les coupes et ils écoutent l'aède qui leur raconte des histoires. Et pour la première fois d'ailleurs, quelqu'un raconte l'histoire d'Ulysse et Ulysse s'aperçoit qu'il est rentré dans la mémoire collective, qu'il est rentré dans la littérature et c'est l'invention de la poésie. Donc la poésie féconde la vie, elle l'illumine et on devrait vraiment se lever souvent avec son verre de vin dans les mains et lire la poésie d'Homère et la vie en deviendrait beaucoup plus douce.
On retourne au standard avec Stéphane qui veut vous poser une question, Sylvain Tesson. Bonjour Stéphane.
Bonjour à tous les deux. Merci à France Inter de prendre nos questions. Ben, Homère serait-il heureux en 2018? Serait-il écrivain?
Sylvain Tesson vous répond.
La question du bonheur, elle est très présente dans l'Iliade et dans l'Odyssée, elle est très présente dans la pensée antique et elle procède d'une tension, d'une contradiction. D'un côté, on sait que pour être heureux, il faut s'adonner à une vie mesurée, une vie équilibrée, une vie douce, une vie bonne, une vie presque ordinaire, mais une vie calme. Et puis de l'autre, on a l'envie de faire des actes héroïques qui vont vous permettre d'être un héros dont on n'oubliera jamais les faits et gestes. Sauf que tout ça, c'est contradictoire. Parce que le jour où vous faites des actes héroïques sur le champ de bataille, bah vous mourrez, vous allez dans les enfers et vous n'aurez plus votre vie douce sous le soleil. Donc le bonheur se dissolvera et disparaîtra parce que vous avez voulu briller. On est toujours confronté, il me semble aujourd'hui, à cette contradiction. Donc je ne sais pas si Homère serait heureux aujourd'hui. Peut-être posez-vous cette question parce que vous faites référence aux secousses, aux malheurs, aux tourments que connaît notre monde aujourd'hui. Il ne me semble pas que du temps d'Homère, les choses étaient beaucoup plus calmes. Toute l'Iliade et toute l'Odyssée sont traversées de tragédies. Il n'est pas absolument sûr que la tragédie de 2018 qui secoue la planète soit plus cuisante, plus douloureuse et plus sanglante que celle qui la secouait il y a 2500 ans.
Paris, au téléphone, au standard, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous vous appelez Paris, donc.
Je m'appelle Paris de mon prénom. Et ça vient du fait que ma mère adorait la mythologie grecque. Or, depuis quelques années, quand je dis que je m'appelle Paris, on me dit « Ah ben non, c'est un prénom féminin, c'est Paris Hilton ou Paris Jackson ». Et ça, il y a 10 ans, je ne l'entendais jamais. Je suis obligé d'expliquer. Non, ça vient de la mythologie grecque. Paris, en Paris, la guerre de Troie n'existait pas. Donc on a retenu Ulysse, mais on n'a pas retenu Paris.
Sylvain Besson.
Ça va faire rire Monsieur Besson, je pense.
Oui, alors je vois bien. Oui, non, mais vous avez peut-être raison qu'il y a eu, une petite dépression. Vous savez, comme on dit dans les vols en avion, il y a une légère dépression en termes de. D'éducation et de transmission d'Ilia et l'Odyssée, ça reviendra probablement. Je sais qu'il y a un ministère de l'Éducation qui s'y emploie aujourd'hui à ce que les humanités reviennent. Donc posez peut-être vos questions plus tard aux amis de vos petits neveux ou de vos enfants et il est probable que l'Ilia et l'Odyssée reviendront. Elle ne meurt pas. Vous savez, il y a une pièce de Feydeau où la petite fille vient d'apprendre la guerre de Troie et elle dit à son père mais Troie, c'est Troie en Champagne ou Troie en Asie? Et son père dit non ma chérie, ça n'est pas pareil, 3 et 3 ça fait 2. Et alors la petite fille répond mais non papa, 3 et 3 ça fait 6. Enfin bref, vous voyez que même à l'époque de Feydeau, on évoquait déjà l'idée que les enfants pouvaient être dans la confusion de ce qui appartenait à notre environnement immédiat, commun, médiatique et télévisuel pour Paris Hilton ou bien à l'éternité du poème d'Homère.
Homer, c'est la preuve qu'il faut encore apprendre les langues mortes et que ça peut encore être des langues vivantes qui nous parlent aujourd'hui.
Bah, c'est la preuve que c'est une absurdité d'appeler morte une langue dont le propos continue à nous irriguer et nous apprend sur nous, finalement, beaucoup plus, encore une fois, que la lecture du journal du matin. La figure d'Ulysse trace ce que nous sommes, c'est-à-dire des hommes qui sont en permanence ballottés dans leurs contradictions, entre l'envie de revenir mais l'envie de vivre des aventures, entre l'envie de briller mais l'envie d'avoir une vie douce, entre l'envie de partir à la découverte de l'inconnu mais l'envie de retrouver le foyer, la fidélité et le calme. Et cette contradiction, me semble-t-il, c'est ce que nous vivons en permanence, et celui qui l'a évoqué le premier, c'est Homère. Il y a des millénaires, et il me semble que c'est tout sauf mort. Homère est très vivant, donc comment pourrait-il avoir usé d'une langue morte ?
Jean-Christophe, sur l'application France Inter, vous pose cette question, Sylvain Tesson. Homère, c'est un seul homme ou c'est un collectif de poètes ? Effectivement, c'est une question qu'on se pose beaucoup sur Homère.
C'est une question qui agite beaucoup l'université, qui l'a agité depuis 2 ou 3 siècles. C'est même une question qui porte un nom, on l'appelle la question homérique. Est-ce que Homère un poète qui tout à coup un génie monstrueux qui un jour est sorti de nulle part et qui a inventé à la fois la littérature, la poésie, la mythologie, ou bien est-ce que c'est une assemblée de d'artistes, de bardes, de poètes, d'aèdes qui auraient agrégé tous ensemble leur mythe et leur légende. Il y a peut-être une réponse qui serait une voie médiane, qui était la thèse de Jacqueline de Roméide, une grande helléniste qui a disparu il y a une quinzaine d'années. Jacqueline de Roméide disait que la vérité se tient probablement entre les deux, c'est-à-dire que Homère était un homme, mais qui s'est servi de toutes les légendes qui circulaient autour de la Méditerranée, parce que tout le monde connaissait l'œuvre d'Homère. On racontait l'Iliade et l'Odyssée sur tous les pourtours de la mer, et il se serait servi de toutes ces légendes pour inventer son poème en procédant au collage, à l'agrégation, à l'addition de toutes ces légendes qu'il avait entendues.
Une question encore au standard. Elisabeth, vous êtes là,
oui.
Bonjour, allez-y.
Oui, bonjour. Oui, voilà, j'ai adoré votre livre, en tout cas tout la première moitié. Une chose m'a un peu choquée, les attaques que vous faites contre les religions monothéistes. Et en disant, voilà, j'aurais voulu avoir une explication.
Oui, c'est-à-dire que ça nous ramène à quelque chose qui traverse le poème d'Homère et qui est une vision du monde, une explication du cosmos avant les révolutions, avant les révélations monothéistes. Alors, quelle est cette grande différence ? C'est que tout à coup, les grands prophètes qui ont suivi l'explication du monde antique ont injecté l'idée très tranchée, très duale, qu'il y avait une ligne de partage entre les événements et entre les hommes qui séparait ce qui appartenait à la morale et ce qui appartenait aux choses immorales, ce qui appartenait au licite et à l'illicite, ce qui appartenait au bien et au mal, à la lumière et à l'obscurité. Et que cette ligne de fracture séparait le monde et qu'il fallait naturellement choisir ce qui était de l'ordre de la lumière plutôt que de l'obscurité. Or, dans la pensée antique, Et dans le poème homérique, chez Ulysse, comme chez Achille, comme chez tous les héros, il y a la coexistence de toutes choses. C'est-à-dire que le monde est offert à nous, à nos yeux, on le regarde, et puis il y a les choses qui sont là. Il y a la violence et la paix, il y a la ville et la campagne, il y a le soleil et la nuit, il y a les bêtes et les hommes, et tout est là, et il faut le prendre, il faut ouvrir les bras, il faut l'accepter, il faut vivre dans l'amour de ce qui est devant nous. Et c'est ça la pensée antique. C'est peut-être ça être païen. Être païen, ce n'est pas se dire quand on voit quelque chose, alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, est-ce que j'ai le droit, est-ce que j'ai pas le droit, est-ce que c'est licite, est-ce que c'est illicite. Non, c'est là, c'est dévoilé dans la lumière du soleil, je le prends, je l'accepte et je l'aime. Et je crois que ça rend plus heureux d'être païen.
Sylvain Tesson, Un été avec Homère, vous l'avez écrit sur un petit caillou grec des Cyclades, l'île de Tinos, je crois, en face de Mykonos. Est-ce qu'il faut être absolument dans un paysage splendide de vacances pour lire Homère? Dernière question.
D'abord, je ne sais pas si c'était un paysage de vacances, parce que c'était plein de scolopendres, il y avait 80 km/h de vent tous les jours, c'était le mois de mars, l'eau était à 14 degrés, enfin il y en a qui trouvent que c'est des vacances, les Écossais par exemple, mais c'était plutôt la Grèce de l'hiver. Et moi je crois, oui, que Homère a versé dans son poème tous les ingrédients de la géographie de la Méditerranée, la lumière, le soleil, la chaleur, l'écume, le pétillement de la lumière sur la mer, et qu'on ne peut pas comprendre un très beau texte organique si on ne va pas voir le paysage ou si on ne va pas éprouver la beauté des éléments.
Un été avec Homère de Sylvain Tesson. Merci beaucoup d'avoir été l'invité de France Inter ce matin. C'est une coédition, ce livre France Inter Équateur. Merci d'avoir fait le voyage jusqu'à nous. Vous savez qui prend votre suite? Un été avec, ça commence lundi.
Régis Debray.
Effectivement.
Un été avec Paul Valéry.
On parlera encore de la Méditerranée, je crois, avec Régis Debray et Paul Valéry. Merci à vous.